On est toujours sur Radio Esperanza et les artistes défilent dans le studio, dans le petit studio 2. Aujourd'hui, on a vu sur la scène Alpha, quelqu'un qu'on ne connaissait pas pourtant, qui n'est pas un perdreau de l'année, mais elle a déjà fait pas mal de projets, elle a déjà fait pas mal de choses, et depuis qu'elle est très jeune, hein, c'est surtout ça. Elle s'appelle Jazia Satour. On pourrait croire que c'est du jazz avec ton nom, mais c'est pas particulièrement du jazz ce que tu fais. Ce que j'aimerais commencer, c'est un truc que j'aime bien connaître, d'où les gens viennent et d'où les gens, enfin le parcours. Alors pour commencer, dans le salon de tes parents, quelle musique passait ?
Alors, la musique qui passait dans le salon de mes parents quand j'étais petite.
Bah, j'imagine. Bon, peut-être maintenant encore. Je ne sais pas s'ils vivent toujours.
Oui, oui, oui. Mais par contre, ils ont chacun leur salon maintenant.
Ah, voilà.
Et puis, je ne suis plus forcément dans leur salon tous les
jours.
J'imagine. Mais disons qu'ils ont écouté plein de choses très différentes. Moi, quand j'étais petite, il y avait des vinyles à la fois de Renaud, d'Elvis Presley, des Beatles. Et puis il y avait aussi des musiques arabes, de la musique shabi, de la musique andalouse. Donc oui, ils ont écouté des choses très différentes et du coup je les ai écoutées aussi.
Ils étaient assez mélomanes alors s'ils écoutaient tout ce panel.
Oui, je pense, oui, plutôt. Enfin, disons que mes parents.
C'était à Alger, hein, donc comme
c'était,
une grande
oui,
ville.
Oui, c'était
assez
Alger, ouais, c'est
assez
vrai.
Urbaine, donc j'imagine il y a pas mal de cultures qui arrivent là.
Oui, et puis c'est vrai que c'est une question de curiosité. Il y a des gens qui écoutent plus ou moins de musique et voilà. Mais c'est vrai que mes parents ont écouté quand même. Oui, oui, ils avaient leur.
Donc tu as été baigné quand même dans cette.
Oui, je pense que il y avait aussi le fameux opéra de Carmen de Bizet que j'ai beaucoup écouté aussi quand j'étais petite. Parce que je m'amusais à rechanter Carmen sur mon balcon.
Sur donc le c'était, balcon. C'est, tu l'as écouté beaucoup, mais c'était plutôt un plaisir que
une
torture de le réécouter trois fois par jour.
Non, c'était pas du tout une torture. Et d'ailleurs, mon père m'a réoffert un coffret de Carmen il y a quelques années de ça, à mon anniversaire. Et c'était incroyable parce que ça m'a fait presque l'effet d'une Madeleine de Proust.
Ça voulait dire ma fille revient, fait comme quand on était petit, qu'on écoutait Carmen.
Oui,
à
c'est
la maison.
Ça. C'était, enfin, en tout cas, c'était un petit peu un clin d'œil.
Ouais.
J'ai eu aussi l'occasion de voir Carmen d'ailleurs à l'opéra à Paris, et c'était incroyable en fait, parce que je me suis aperçue que vraiment les airs et les thèmes m'étaient vraiment très très familiers. Ah, c'est très drôle de constater à chaque fois comment l'enfance marque par ces événements et voilà ce qui s'y passe. Toute sa vie, finalement. Alors, ça ne s'arrête pas qu'à la musique, mais c'est un petit.
Ben ouais.
C'est symboliquement très révélateur.
D'accord. Alors, tu as 10 ans, tu déménages ?
Bah oui, à 9 ans, on a quitté l'Algérie.
À 9 ans. Et vous quittez l'Algérie pour une raison particulière ou...
On est parti en raison principalement des événements des années 90.
C'était à l'époque de la guerre civile presque.
C'était le tout début vraiment des tensions, effectivement. Uh-huh. Et qui. Bon, après, il y avait aussi des raisons d'ordre plutôt familial, mais oui, on est parti du coup à ce moment-là. Donc
d'accord.
Ça a été vraiment un changement.
Tu arrives à Grenoble
Un choc
culturel, quelque chose, qu'est-ce qui te...
Quand on est enfant, on a deux choses, je pense. Il y a à la fois cette énorme capacité de réadaptation et d'adaptation qu'on a déjà d'une manière générale, parce que je crois que l'être humain est l'animal qui est le plus capable de s'adapter, paraît-il.
Uh-huh.
C'est à voir, hein. Mais j'ai entendu ça une fois, ça m'avait frappé. Quand on est enfant, oui, on arrive à rebondir sur ce genre de d'exil entre guillemets, enfin de changements comme ça très 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 brutaux. Mais il y a aussi malgré tout cette cassure qui perdure, c'est-à-dire que c'est un changement qui est brutal.
T'avais toutes tes copines dans l'autre école.
Ah, exactement,
et c'est
exactement,
pas facile,
exactement. Notre réalité d'enfant, c'est celle-là. Donc ça a été effectivement une coupure. Qui, je pense aussi, a laissé forcément des traces quelque part.
Et tu viens dans un quartier algérien, un quartier maghrébin, un quartier français, où il y a une espèce de tampon. Si tu arrives dans un quartier maghrébin, ça peut faire un peu tampon au niveau de l'atmosphère.
Moi, je suis arrivée dans un quartier, effectivement, de ce qu'on appelle en fait un quartier, parce qu'effectivement, c'est des quartiers, disons, plus périphériques. C'était la Villeneuve de Grenoble.
D'accord.
Là-bas, on a effectivement une immigration plus importante qu'ailleurs, puisque c'est le cas souvent dans les quartiers d'ailleurs qu'au fur et à mesure on ghettoise. Mais ça c'est quelque chose de plus récent en fait, la ghettoisation en tout cas de ce quartier-là en particulier. À l'époque quand je suis arrivée, d'abord on a été accueillis et puis c'est vrai qu'il y avait encore ce mélange incroyable. Ce quartier en particulier était connu pour ça. C'est-à-dire qu'il y avait un mélange vraiment de classes sociales très, très, très diverses, très variées. Et donc, ça a été quand même de très belles années. Hein. En tout cas, voilà, dans mes souvenirs, j'en garde vraiment des moments, des moments très, très beaux, en fait.
Ok.
Ouais.
Alors, assez jeune, hein, à partir de 15 ans, d'après ce que j'ai vu, tu commences à faire de la musique. Enfin, tu faisais peut-être de la musique avant, je ne sais pas, mais tu commences à accompagner en tout cas des musiciens.
Oui, en fait, à partir de, disons, de 13-14 ans, j'ai déjà des velléités de participer à des projets musicaux. À l'époque, il y avait des disquaires où on pouvait laisser
des petites annonces.
Ouais. Voilà, donc je passais ma vie dans ces disquaires à appeler des groupes pour participer à des projets. Souvent, c'était des groupes de reprise parce que quand on a 13-14 ans, ben, on reprend. Et puis moi, à l'époque, j'avais une époque très rock. Donc j'adorais les groupes Nirvana, tout.
Mais en fait, quand tu bouges sur scène, il y a des petits restes de ça encore.
Un petit côté rock'n'roll, tant mieux. Mais c'est vrai qu'à l'âge de 15 ans, disons, j'ai intégré une formation qui était une formation quand même de musiciens beaucoup plus âgés que moi, Gnawa Diffusion, qui est un groupe plutôt connu en France, et qui m'a, disons, fait beaucoup tourner et enregistrer. C'est-à-dire que c'était la première expérience vraiment professionnelle dans la musique.
Mais c'est marrant que tu dises que tu avais une période rock, et là, c'est... Alors, c'est du mélange rock, rail...
Oui, effectivement, c'est vrai. Mais quand on est adolescent, en fait, on découvre plein de choses. On a des périodes. Moi, j'ai adoré Jackson. J'étais fan au point d'avoir des murs recouverts de ses posters et de ses photos.
On est assez perméable à plein de choses.
Oui, on a des périodes, quoi. Et donc, moi, j'ai découvert plein de choses. Et c'est vrai qu'intégrer Gnawa Diffusion, ça a été aussi l'occasion d'être dans un groupe de fusion, pour le coup.
Ouais.
Plutôt, effectivement, axé sur la musique Gnawa marocaine.
Ouais.
Enfin, marocaine. Gnawa, c'est même plus large que ça, hein, parce qu'on trouve de la musique Gnawa aussi en Algérie, et puis plus bas aussi en Afrique noire. Mais c'est, enfin, bref, sans refaire l'histoire des Gnawa, mais effectivement, c'est déjà un groupe de fusion et qui mélangeait aussi du reggae, du raga et puis d'autres musiques plus larges encore. Effectivement, il y avait un peu de rock, etc. Donc, ça a été une sacrée expérience.
Ok. D'accord. Après ça, tu passes par.
Après ça, c'est le groupe MIG.
Oui, hein, MIG.
Ouais. Je vois que tu connais très bien la biographie.
Alors, j'étais voir, j'ai vu sur Renseigné.
Oui, quand même.
Et je pense que, alors là, je crois que c'est tout à fait par hasard, il y a quelques années, quand tu es passé dans Ce soir ou jamais, je pense que j'étais à mon poste. Mais c'est un flash qui m'est revenu. Tu es passé dans cette émission.
Ah oui, tout à fait.
Voilà. Et je pense que j'étais là, mais je ne connaissais pas du tout.
C'est marrant.
Voilà. Ouais. Et tu chantais en quelle langue à l'époque?
Alors, dans le groupe MIG, on chantait en anglais. Enfin, je chantais en anglais, en arabe et un petit peu en français aussi.
D'accord.
On a fait effectivement... deux albums, trois disques en tout, parce qu'on a fait aussi un 6 titres. Mais c'était déjà... c'est le groupe dans lequel j'ai vraiment commencé à chanter en tant que chanteuse-compositeur. C'est-à-dire où je me suis vraiment exprimée en tant que créateur. Parce que dans le groupe Gnawa Diffusion, j'étais une interprète, j'étais choriste. Donc ça a été une expérience, bien sûr. Et puis ensuite, dans MIG, ça a été vraiment le premier groupe où j'ai eu une place... beaucoup plus importante. J'étais la chanteuse et effectivement, je pouvais déjà, avoir un choix dans ma direction, dans ce que j'avais envie de proposer, de faire. Et c'était d'ailleurs, c'est là que j'ai commencé à ressentir cette envie de faire de la recherche, en quelque sorte, d'une manière très spontanée. Hein, mais où je sentais que mes influences un petit peu diverses, notamment celles dont on a parlé, par exemple... rentrer en jeu en fait dans la création et former comme une sorte de synthèse. J'exprimais vraiment des choses très très personnelles sans du tout que ce soit théorique. C'était vraiment de la recherche, quoi.
D'accord.
Ouais. Et ce qui m'a intéressé dans le groupe MIG, c'était que je ne connaissais pas du tout le style que ce groupe-là voulait défendre et développer, qui était la musique trip-hop.
Ouais.
Au début des années 2000, ça a été la grande vague de la musique trip-hop avec des groupes comme Morshiba, Massive Attack, Portishead.
Ouais.
Et moi, on m'a invité au départ, c'était un collectif. Et puis ça m'a intrigué. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette musique? Bon, je ne connaissais pas du tout. Mmh. Et c'est ce qui m'a plu, en fait. C'était la totale méconnaissance de ça, la découverte, en fait.
D'accord. Et ça s'est arrêté pour une raison
Beaucoup de projets comme ça meurent de leur belle mort, malheureusement, parce que soit ils s'essoufflent. En tout cas, c'était à regret.
Le succès n'est pas au rendez-vous.
On a eu un succès quand même avec Mick, qui était un succès critique. Il avait, ça a pris une importance qui n'était pas des moindres, en tout cas pour nous. En ce qui me concerne, je ne souhaitais pas du tout la fin de ce groupe-là, d'ailleurs. Ça s'est fait parce que les uns et les autres ont eu envie d'autre chose, tout simplement.
Ok. Et alors, j'imagine qu'à un moment, tu commences à vouloir faire toi-même tes propres compositions, tes propres textes, tes propres...
C'est une continuité. Le groupe MIG était donc un groupe où je m'exprimais déjà. Et moi, pour moi, la musique, à partir de ce moment-là, faisait partie de ma vie. C'est-à-dire qu'elle a toujours fait partie de ma vie. Ouais. Simplement, j'ai décidé d'en faire ma vie, dans le sens où, du coup, j'ai choisi d'en faire mon métier et la raison pour laquelle je me lève le matin. C'était vraiment la création. Donc, en fait, pour moi, le groupe MIG a été très porteur, mais dans tous les cas, j'avais envie de continuer à créer. Donc j'ai simplement continué. Ça a été une suite logique de poursuivre ce chemin de la création. J'ai toujours travaillé aussi avec des paroliers. Mmh. Donc j'ai continué, tout simplement, en mon nom, en solo, comme on
D'accord.
dit.
D'accord. Ouais, ouais.
J'ai continué à écrire des chansons. J'ai sorti un premier 6 titres, Clamy, et puis 2 albums. Ouais. Pareil, en solo, dont le dernier qui est sorti il y a peu de temps, il y a 6 mois à peu près.
D'accord. Ouais. Mais on n'est plus du tout dans le trip-hop, là. On est dans quelque chose... peut-être tu peux expliquer
oui,
comment toi, tu la ressens, comment tu la construis.
Oui, c'est... En fait, ce que je fais aujourd'hui est une continuité, une espèce de suite, je crois, logique. Le disque que je viens de sortir, Aswat, c'est à la fois un tournant et en même temps, c'est le fruit, je crois, de mon parcours musical. C'est les deux. Mmh. C'est-à-dire que je suis imprégnée par la musique trip-hop, par la musique hip-hop. J'en garde ce côté répétitif, très efficace, cette capacité de travailler, enfin de comment dire, dans ces musiques-là, de mettre l'accent sur la rythmique, sur quelque chose de répétitif, finalement, mais dont on ne se lasse pas. C'est ça, le rap, en fait. Et c'est basé sur des rythmiques très fortes, très efficaces. Et je me suis rendu compte que, d'ailleurs, ce sont des choses qu'on retrouve dans les musiques traditionnelles. Dans les musiques traditionnelles, il y a cette notion de répétition et en même temps d'ultra-efficacité, dans le sens où c'est des chansons qui vous... Enfin, c'est des thèmes, des gimmicks musicaux qui vous tombent dans l'oreille. Il y a quelque chose de magique dans les musiques traditionnelles. C'est que ça vous retient l'oreille. Et dans le rap, je trouve qu'il y a ça, alors que c'est des mondes où peut-être pas tant que ça si différents. Mais en tout cas, ce qui m'intéressait, c'est ce pont entre ces musiques trip-hop à rap, plutôt anglo-saxonne finalement, et ces musiques traditionnelles qui viennent le plus souvent du Maghreb et qui ont, qui ont cette même caractéristique. Je crois que c'est peut-être ce que j'ai recherché dans ce dernier album. Dans ce dernier album, il y a un album qui s'écrit, qui se chante en arabe entièrement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus le mélange des langues qu'il y avait avant. Il y a vraiment un parti pris de la langue arabe qui est pris ici parce que c'est une langue qui résonne en moi comme quelque chose, là encore, de très naturel. Et puis, il y a l'intervention des instruments traditionnels arabes, maghrébins, qui sont aussi très présents aux côtés des instruments plus anglo-saxons, disons.
Ouais.
Et tout ça, pour moi, sonne comme... finalement une résultante de tout ce que j'ai pu explorer, en fait. Et je crois qu'aujourd'hui, j'essaye simplement d'aller vers quelque chose qui soit le plus authentique, le plus proche de ce que je suis. Alors, voilà, et c'est comme ça que cet album est né, en essayant de simplement revenir vers une forme d'authenticité.
Alors moi, j'ai pas encore écouté l'album et je l'écouterai dans pas très longtemps. Moi, j'ai vu le concert... alors tu parles d'instruments traditionnels, mais pas que, hein. On voit, il y a un banjo aussi qui arrive.
Alors oui, c'est une bonne remarque, c'est un banjo, effectivement.
Mais ça sonne un peu, effectivement. Y a
c'est un banjo algérien.
Ah, alors, en fait, ça existe, le banjo algérien.
Parce qu'en fait, la musique chehabi algérienne, et algéroise en particulier, a intégré à un moment donné des instruments. Elle a eu aussi ses phases. Et ces instruments-là, notamment, c'est le banjo que vous avez vu, que
ouais.
T'as vu.
Ouais, ouais, tu peux me tutoyer.
Qui est en fait... okay. Qui est un banjo à 6 cordes. Alors, on a le banjo américain. Hein. On retrouve hein, le son
cordes,
du banjo qui
contre.
Est à 4 cordes, ouais. Ou même à 5 cordes. Ça, c'est un banjo, effectivement, à 6 cordes, qui, à un moment donné, a intégré le chehabi et qui lui a apporté sa couleur aussi. Donc, c'est en ce sens-là que j'utilise De la même manière que j'utilise le mandol, qui est aussi un instrument typique. Le bendir aussi, qui est un instrument, disons, plus généralement d'Afrique du Nord, qu'on retrouve pas qu'en Algérie,
le
bien
bendir,
sûr.
Le bendir,
c'est une percussion, voilà, avec une peau, c'est une grande percussion avec
D'accord.
un timbre derrière,
ouais.
Que là, on utilise un petit peu intégré à la batterie, donc on voit pas forcément le bendir, mais il est très présent aussi sur l'album. Il y a le violon aussi qui
Le
est
violon qui
utilisé,
se joue
qui
debout,
se joue comme ça, voilà,
ouais.
pareil, ce qui est caractéristique du Cheabi. Donc, sur l'album en particulier, on retrouve bien sûr ces instruments et puis des instruments de percussion divers et variés qui sont aussi issus de la tradition algérienne ou nord-africaine,
Les
disons.
musiciens que tu as choisis, c'est des rencontres, ce sont des musiciens qui ont des talents spécifiques, ce sont des les deux, j'imagine.
Alors,
Oui.
oui, alors il y a
Le mieux, ce serait que ce soit les deux.
Oui, en fait, ils sont pas là par hasard.
Ouais.
Ces musiciens, d'abord, la plupart de ces musiciens jouent avec eux depuis 10 ans maintenant.
D'accord.
Et le musicien qui utilise tous les instruments traditionnels et a intégré la formation il y a maintenant 2 ans et demi, à l'occasion de ce disque-là, justement pour son savoir-faire et sa culture aussi très, très algérienne, très algéroise. Preuve que véritablement, d'ailleurs, cet album a pris cette couleur-là, cette patine-là. Et c'est un peu pour moi comme une résonance en fait. Il y avait comme vraiment une envie très forte de faire résonner ces instruments à cordes traditionnels aussi, un petit peu comme la voix. C'est-à-dire que moi je suis plutôt une mélodiste. Ce qui me plaît dans la musique quand je crée des chansons, c'est la mélodie et la rythmique. Donc je suis très attachée à ces deux aspects-là. Et les instruments à cordes traditionnels qui sont présents dans cet album, pour moi, ont ce rôle émotionnel qu'a la voix. Donc je leur ai donné une place que je voulais égale à la voix. Et du coup, j'ai vraiment beaucoup travaillé sur ces instruments. Ouais.
À un moment dans le concert, on a droit à une petite valse.
Oui.
Est-ce qu'il y a de la valse algéroise? Parce qu'il y a, y a eu, par exemple, le tango au Maghreb. Le tango a eu un succès énorme et on a des orchestres qui jouent le tango. Alors, la valse, ça, je ne sais pas. Tu vas peut-être me le dire. Ou c'est toi qui as eu une petite lubie comme ça, faire
Alors,
une valse
c'est joliment dit, non, mais c'est vrai que la valse sur la chanson Loun Liam s'est mélangée très naturellement en fait avec un mode arabe, notamment dans la mélodie. Et ça a été quelque chose d'assez miraculeux en fait, parce que ça a très bien fonctionné, mais c'est arrivé d'une manière totalement spontanée. Je cherchais un jour sur cette valse comme ça, 3 accords, une mélodie, et d'un coup j'ai un mode traditionnel algérien, paf, Chaabi, qui me tombe dans l'oreille au moment où je cherche une mélodie. Ça fait partie un peu de la magie de la création. Et c'est la première chanson qui a été composée pour cet album, et ça
D'accord.
a été aussi un petit peu finalement la direction. C'est ce qui a un peu déterminé la direction. Voilà, donc c'est tombé d'une manière presque. C'était pas réfléchi, c'était pas théorisé à l'avance, quoi. En fait, il y a comme quelque chose, je crois, avec le temps qui passe, les années, en fait, dans la vie de quelqu'un, avec le temps qui passe, je crois qu'il y a des choses qui reviennent du passé.
Je crois que tu fais des réserves aussi de plein d'idées, de tout ce que tu as entendu.
Oui,
Et donc,
mais.
tu dois de temps en temps,
Oui.
ça perce.
Ça c'est vrai, il y a aussi un peu de ça.
J'imagine.
Il y a des choses qui se synthétisent dans la musique dont on ne se rend pas compte en fait. Il y a des mélanges qui se font parce qu'on écoute des choses et puis que des choses nous traversent, bien sûr. Mais après, arriver à recréer quelque chose, c'est une autre paire de manches. Et en même temps, eh ben, c'est là que toutes ces influences interviennent. Donc je crois qu'il faut juste laisser parler le ressenti, la sensibilité. Et à ce moment-là de ma vie, c'est cette sensibilité-là qui est apparue. C'est aussi une envie de chanter en arabe, qui est ma langue maternelle, qui était quelque chose qui me tenait à cœur depuis longtemps. Et puis là, tout s'est un petit peu composé comme une évidence. Et ça a été très cohérent, en fait, très vite.
D'accord.
Voilà. Donc en fait, il doit se passer quelque chose. C'est pour ça que je dis que cet album est à la fois un tournant, parce que ce marquage de ces musiques, de la langue arabe, de ce qui m'a un petit peu constitué dans l'enfance aussi, de ce qui a traversé aussi mes oreilles et mes acquis, ben c'est une continuité. Et puis en même temps, ça s'exprime d'une manière tellement forte
Ouais.
que c'est aussi un tournant par rapport aux autres albums qui étaient peut-être encore différent finalement, où il y D'accord. avait de l'anglais, où il y avait d'autres choses, d'autres influences plus marquées.
Okay. Bah, écoute, on écoutera ça vraiment avec grand plaisir. Alors, hier, sur scène, il y avait un monsieur qui s'appelle Blik Bassi, je ne sais pas si tu vois qui c'est.
Oui, très bien. Oui.
Ok, alors tu as un lien avec lui, c'est que son album précédent qui s'appelait Akko était un long hommage à Skip James.
Ah oui,
et aujourd'hui, tu as fait une reprise.
Ah, c'est un hommage à ce.
Oui. Il a mélangé le blues de la
Louisiane
avec des rythmes du village de son enfance au Cameroun.
Ouais.
Et alors toi, bah, tu as terminé ton set avec un morceau de Skip James aussi.
Oui, c'est vrai. Skip James a été une grande découverte pour moi.
C'est marrant, le pauvre, tout le monde le découvre maintenant, mais lui, à l'époque,
oui.
il a vécu dans la misère, il n'a pas du tout vécu de sa musique.
Absolument, c'est vraiment l'artiste, c'est l'artiste maudit et en même temps l'artiste avec un énorme A, parce que les artistes ne sont pas artistes simplement du fait de leur notoriété ou d'une quelconque réussite.
Mmh. Bien sûr.
Ça n'a bien évidemment rien à voir, mais c'est ce qui m'a beaucoup touchée dans son histoire. Et puis cette voix aussi incroyable qu'il a, très, très haut perché. C'est un personnage qui m'a touchée, et quand j'ai voulu reprendre cette chanson dans l'album précédent, l'album Alouane, que j'ai sorti il y a quelques années maintenant, disons que je me suis, enfin, je sentais cet incroyable héritage en fait africain des bluesman, indéniable, je veux dire. Et d'ailleurs j'avais écouté une version d'un monsieur qui s'appelle Young Blood Art, qui a fait une version de Illinois Blues de Skip James, que je trouve magistrale. C'est aussi de lui que je me suis inspirée pour cette chanson. C'est un hommage, en fait. Je pense à tous ces apports de ces peuples qui ont transformé leur culture, qui en ont fait une musique nouvelle, comme aux États-Unis, les Noirs américains.
Le fait d'être déraciné a créé quelque chose de nouveau.
Ce déracinement-là, il a produit quelque chose et il a été aussi porteur de, je pense, de pas seulement dans la musique, le blues est quelque chose aussi qui a été, je pense, vraiment à l'initiative et qui a initié d'ailleurs la conscience noire américaine, qui a donné en fait bien en amont de la période des mouvements des droits civiques aux États-Unis dans les années 60-70, une conscience de la condition noire américaine, avec d'ailleurs des bluesmen qui étaient avant tout des femmes, et ça on le sait un peu moins. Alors je le dis parce que je viens de lire un livre d'Angela Davis qui parle de ça.
D'accord.
Et donc c'est pas qu'une musique, c'est une musique, c'est une véritable culture et qui est porteuse de messages, qui est porteuse de force, qui est porteuse d'histoire, en fait, qui a conduit aussi des peuples jusqu'à s'exprimer, jusqu'à se sentir unis, uniques. Voilà, c'est tout ça, le blues. Donc, il y a des blues, en fait.
D'accord.
Et moi, je crois en ce pouvoir-là de la musique.
Ah.
Voilà.
Ouais. Je crois qu'il y a un sentiment de blues qui est universel et qui est retransmis dans chaque culture avec une musique particulière.
Il y a des blues et vraiment, véritablement. Et c'est vrai que pour moi, c'est cette forme d'authenticité-là qui me touche aussi.
D'accord.
On ne parle pas de commercial quand on parle de ces musiques.
Effectivement.
Enfin, d'ailleurs, je dis ça, mais il y a beaucoup de choses commerciales qui sont super. je dis pas le contraire.
Le fait que ce soit commercial ou pas n'est pas.
Non, ce qui compte dans
un
la
symptôme
musique,
de que ce soit bon ou pas.
Bien sûr que non.
De lien. Alors, je voulais. On a parlé un peu d'exil, de déracinement, et tu avais une métaphore pendant que ça qui m'a beaucoup touché. Tu parlais d'exil intérieur, on ne sort pas du pays, mais c'est le pays qui sort de soi. Et moi, ça m'a ouvert plein d'émotions, que même en tant que n'importe quel être humain, il y a plein de choses qui partent de soi aussi. Et notre jeunesse s'en va, on est un peu des exilés de notre jeunesse.
C'est vrai.
Et j'ai trouvé ça très beau. Et donc voilà, je voulais t'en parler, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire.
Oui, parce que déjà, je crois que ce dont tu parles, je crois que c'est quelque chose de très fort, hein, le fait de se sentir exilé d'un passé, c'est plutôt joliment dit. C'est vrai que pour cette chanson, il ne s'agit pas simplement d'un exil intérieur. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur par rapport à cette chanson et d'une manière générale. C'est un exil que l'on ressent parce qu'on y est forcé. C'est-à-dire qu'on nous a enlevé quelque chose. Mmh. Ida parle véritablement de la dépossession. Mmh. De la dépossession, pas seulement au sens de la colonisation, c'est-à-dire des terres. Cette dépossession, d'ailleurs, qui existe dans la colonisation, c'est aussi une dépossession de soi-même, d'un vécu. Et les gens qui vivent cette situation, et en l'occurrence là, ce sont les Palestiniens, qui sont des gens qui vivent sur un territoire qui est totalement occupé. Ils vivent, pour certains, pour ceux qui ne sont pas réfugiés ailleurs, très proches d'ailleurs, ou même réfugiés dans leur propre pays, puisqu'il y a des camps là-bas, et qui du coup ne voient pas simplement leur pays disparaître. C'est tout leur espoir, leur rêve, leurs repères qui disparaissent. Et ce qui m'intéressait dans ce texte-là, c'est d'exprimer ce vécu intérieur qui va au-delà simplement de la perte matérielle, qui va avec une forme de perte matérielle, mais qui est d'abord un vécu de quelque chose qui nous est arraché et qui est vraiment la vie, sa propre vie. Et je trouve que c'est important de parler du vécu des gens, même quand on parle des réfugiés. C'est important de ne pas parler que des masses de réfugiés, du fléau, de la menace, des choses qui sont très abstraites et qu'on déshumanise finalement. Ouais. On déshumanise des vécus. L'exil est un vécu. C'est un vécu intérieur. C'est des gens qui sont en perte de repères, qui sont en errance, en situation d'errance. Et ce sentiment-là m'intéresse et m'intéresse d'un point de vue aussi artistique. C'est en ça que les positionnements que je peux prendre, par exemple, puisqu'on en parle dans ces chansons, n'est pas un positionnement politique. Il peut être en lien avec des questions politiques. Mais il est abordé sous l'angle de l'artistique et s'intéresse du coup au vécu des gens, de ce qu'on peut ressentir quand on vit ces situations. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je rebondis là-dessus, que cet album s'appelle Aswat. Aswat, ça veut dire des voix. Et l'idée, c'était des voix au sens de voix
O-I-E-O-I-X. D'accord, ok.
Et du coup, dans cet album, des voix s'expriment et racontent ce vécu-là, leur vécu. Voilà.
Et tu parles aussi, alors tu en as parlé en concert, je ne sais pas si dans les chansons tu en parles, de cette espèce de nouveau printemps algérien là, qui est en train de... Qui était, au départ, c'était pour mettre Bouteflika sur la touche parce que ça faisait quand même longtemps. Et il n'est peut-être plus en capacité de tenir les rênes d'un grand pays comme ça, mais ça continue malgré tout, et il y a une énergie là, et je ne sais pas si il y a une chanson où tu en parles vraiment, tu en as parlé au concert
Il n'y a pas de chanson où j'en parle directement parce que cet album est sorti avant les événements, bien sûr. Après, il y a forcément des ponts qui existent. Je veux dire, à partir du moment où on est sensible au devenir d'un peuple et à partir du moment où des gens dominés, on y est sensible, c'est-à-dire des gens qui sont exploités, des gens qui sont dominés, des gens qui subissent, oui, complètement, ouais. Un système. Évidemment que ça me touche, c'est mon pays. Mmh. Évidemment que on peut retrouver un petit peu de cette sensibilité-là dans les textes que je chante. Pour l'Algérie, je ne parlerai pas vraiment d'un printemps. C'est-à-dire dans le sens où je crois que c'est un cas un petit peu spécial. C'est vrai qu'il y a eu les printemps arabes. Bon, c'est un aspect des choses, mais les printemps arabes n'ont pas toujours conduit aux attentes qu'on espérait, bien sûr. Mmh. Aujourd'hui, le cas de l'Algérie est un petit peu en attente, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il y a effectivement eu cet incroyable mouvement qui marque ce besoin que les Algériens ont de faire avancer leur pays, parce que depuis l'indépendance, ça devient étouffant de ne pas pouvoir le faire. Ils ont obtenu des victoires, puisqu'effectivement, comme tu le disais, Bouteflika a été mis à la porte. Mais je crois qu'aujourd'hui, tout reste à faire. C'est-à-dire qu'on a, du fait du départ de Bouteflika, l'armée qui apparaît au grand jour. Là maintenant c'est clair, on le sait, c'est bien eux qui tiennent les rênes du pays, puisqu'ils n'ont plus une espèce de...
La marionnette,
voilà,
qui
quelque chose, oui, ouais. Même si Bouteflika est un ancien, bien sûr, mais j'ai peur maintenant de ce qui va se passer, c'est-à-dire que l'armée ne lâchera pas comme ça face à ce mouvement. Elle est vraiment, elle tient à son pouvoir et elle tient à cette omniprésence et à ce qu'elle a installé comme système. Donc il faut attendre de voir. Mais en ce qui me concerne, je crois beaucoup en la capacité des Algériens. Disons, d'avoir de la force et de s'appuyer sur cette force. Ils l'ont prouvé par le passé, ils se sont libérés du joug colonial. Moi, je crois en eux, je crois en nous, en quelque sorte, et je crois en ces mouvements, mais bien évidemment dans la réalité. Voilà, ces mouvements sont sincères, ils partent d'une réalité que vivent les gens, mais il faut aussi reconnaître que la situation depuis le début du mouvement n'a pas changé pour beaucoup de gens, les conditions économiques sont toujours aussi difficiles. Et il faudrait vraiment que ce mouvement puisse se doter de vrais représentants pour faire basculer les choses. C'est un rapport de force. Et dans le rapport de force, malheureusement, on a en face des gens qui sont très durs aussi.
Ah ouais, j'imagine.
Voilà.
Ouais,
donc l'avenir nous le dira.
Donc on croise les doigts quelque part pour que ce mouvement aboutisse à quelque chose
bien sûr,
de plus démocratique et de plus ouvert.
Bien sûr.
Alors, on va terminer par une chose, la thématique du festival,
oui.
C'est, je ne sais pas si tu en as entendu parler, parce qu'il y a toute une thématique sociale aussi hein, dans le festival, c'est démasquons nos propres privilèges.
Ah non, ça je ne savais pas.
Voilà.
C'est bien.
Et moi je trouvais ça un angle d'attaque qui n'est pas courant. Oui. Est-ce que toi tu te sens privilégié? Alors normalement, alors, je vais te dire, quand on fait le test... Alors, femme, c'est pas hyper privilégié. Maghrébine, c'est pas hyper privilégié. Mais tu es quand même sur la scène, tu chantes. Tu as quand même un espace. Donc voilà, est-ce que toi, tu te sens privilégié?
Mais de toute façon, bien sûr, tout est une question de... il n'y a pas une réalité en soi. Moi, je suis... Aujourd'hui, je peux dire que je fais ce que j'aime, que j'évolue, évidemment... dans un contexte où je peux mener effectivement une carrière musicale, une carrière artistique, ce qui est une chance.
Ouais.
C'est une chance aussi qui est faite de choix qui sont faits et de risques aussi qui sont pris, bien sûr. Mais c'est une chance parce que j'ai choisi que je me suis dit que c'était possible, donc j'y vais, je le fais. Donc ça, c'est un privilège, en quelque sorte.
Ouais,
mais qu'on
sûr.
Se donne, hein, bien sûr, aussi.
Ah oui, c'est un travail, j'imagine. C'est pas que du plaisir.
Non, ce que je veux dire, c'est que c'est pas quelque chose qui était non plus, qui allait de soi au départ. Ça peut arriver quand on est, par exemple, je sais pas moi, fils d'éditeur et qu'on devient éditeur, ou fils de chanteur et qu'on devient chanteur. Il n'y a pas ce type de privilège. Il y a quelque chose aussi qu'on décide de s'approprier, bien sûr. Mais... évidemment qu'aujourd'hui, on vit dans un monde, d'ailleurs en Europe, où on est des privilégiés. Je pourrais facilement dire peut-être 70% de nos contemporains vivent dans des situations extrêmement difficiles. Enfin, je ne veux pas donner de pourcentage, ça c'est absurde, mais la majorité de nos contemporains vivent dans des situations et dans des conditions extrêmement dures. Et on le voit notamment aujourd'hui, typiquement, au vu du nombre de gens qui sont prêts à prendre la mer pour quitter leurs conditions. On le voit au nombre de pays en guerre, de pays qui ont été détruits, de catastrophes. On est, je pense, sur un îlot de paix relative qu'il faut préserver d'ailleurs, parce que justement, il y a aussi des risques que cette paix soit défaillante.
En ce moment, ça... C'est...
Voilà, on le voit bien avec certaines politiques identitaires, par exemple, qui sont très, très dangereuses. Donc, je pense qu'il faut avoir il faut garder dans cet esprit un regard critique vis-à-vis des choses. C'est-à-dire qu'il faut ni se dire, ok, c'est bien, on a tout acquis, c'est la démocratie, l'égalité, etc., comme si c'était vrai, alors qu'on subit quand même un libéralisme écrasant, je veux dire. Et puis, tu as même, toi-même cité... des catégories qui restent très ancrées dans nos mentalités. Bon. Donc, ça ne suffit pas. Mais néanmoins, rester critique. Rester critique parce que je crois que il y a beaucoup de choses à faire évoluer encore aujourd'hui.
Ouais.
Moi, par exemple, je suis très sensible au fait qu'on dise, qu'on catégorise des lieux dans le monde, qu'on dise, voilà, là, la femme, est, par exemple, est maltraitée, mais chez nous, non, parce qu'il y a la démocratie, etc. Alors, bien sûr, ce n'est pas pareil. Il y a évidemment des degrés divers de droits, de lois, etc., vis-à-vis de certaines catégories de gens, vis-à-vis du racisme, vis-à-vis du sexisme, etc. Mais quand même... il y a encore des progrès à faire, y compris dans les sociétés dans lesquelles on vit.
Alors, les chanteuses d'IBI reprenaient une phrase d'Obama, de Michelle Obama, qui disait « On voit l'évolution d'un pays à la façon dont ses filles et ses femmes sont traitées. »
Ça veut tout et rien dire pour moi.
Ok.
C'est vrai. C'est ce qui ne veut tout et rien dire, c'est que ce soit Michelle Obama qui le dise. Je vais être un petit peu peut-être sans filtre.
Ouais.
Bien sûr que c'est, on pourrait dire que c'est ça qui détermine l'évolution d'un pays, et je suis d'accord parce que je crois que les femmes sont une minorité au sens où on traiterait les minorités.
Au sens des privilèges, en fait.
Exactement, voilà, tout à fait, parce qu'en réalité, elles ne sont pas du tout minoritaires.
Elles sont majoritaires, mais
donc, il y a vraiment c'est ce problème je veux dire, de la domination masculine est très ancien, et malheureusement, il est encore un petit peu présent. Mais là où je suis sceptique, c'est qu'est-ce qu'on met derrière cette phrase ? C'est-à-dire, est-ce qu'on estime que dans nos pays démocratiques, est-ce qu'on sous-entend qu'on traite forcément bien les femmes de toute façon, et que donc nous, nous sommes arrivés à l'évolution suprême, la civilisation, etc. Et d'accord. Donc ailleurs, par contre, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors si c'est ça qu'on veut dire, j'aurais tendance à nuancer ce discours. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des progrès à faire, y compris dans les sociétés occidentales, où on voit bien d'ailleurs ce qui s'est passé ces derniers temps avec l'affaire, enfin tout le mouvement MeToo qui a quand même révélé, là, bon, au grand jour, bah, je crois que c'est clair, hein, des phénomènes quand même de sexisme et un espèce de système quasiment, voilà, un mode de pensée qui est plus qu'inquiétant et plus que révélateur. Donc je dirais oui, mais il faudrait une suite à cette phrase de Michelle Obama. Que veut-elle dire, et qui exactement, de qui parle-t-elle en fait? Voilà, donc moi d'une manière générale, j'aime bien en savoir un petit peu plus sur ces phrases qui sont des grandes phrases, voilà, mais qui...
C'est un slogan, évidemment, ça
voilà,
va pas
c'est un slogan.
Dans la nuance.
Non, je dis ça surtout par rapport à Michelle Obama, qui reste pour moi... disons comment dire, la femme du président des États-Unis d'Amérique, qui a quand même permis pour la première fois l'utilisation des drones en Irak et en Syrie.
Oui, ouais, bien sûr. Donc, bien sûr, bien sûr.
Pardon, juste de douter de m'inquiéter du double discours parfois des politiques. Bon, qui voilà, mais c'était
bien sûr. Ok, mais écoute,
voilà ma réponse.
Voilà. Ok, mais écoute, un grand merci pour le concert.
Merci à toi.
Et un grand merci pour tout ce que tu viens de dire. Voilà, on est vraiment content d'avoir des gens inspirants là qui parlent de plein de choses intéressantes.
Merci beaucoup. Merci. J'espère que j'ai pas été trop longue.
Et non.
Il y aurait plein de choses à dire. Donc.
Mais oui, bien sûr.
On va peut-être
pas
trop dire aujourd'hui. C'est un long débat. C'est des questions qui sont délicates. C'est des questions qui se traitent avec beaucoup de réflexion, je pense, et puis de nuances.
Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Écoute, et
merci en tout cas pour ton invitation.
Ok, avec plaisir. Et on espère te revoir en Belgique. Je ne sais pas si tu as des projets pour revenir en Belgique.
Ah, mais je ne veux plus que revenir en Belgique maintenant. Voilà. Donc j'espère que je reviendrai vraiment. Et puis je te remercie d'ailleurs de participer à porter mes voix en quelque sorte.
D'accord.
Merci beaucoup.
Okay.
Peut-être que ça me fera revenir du coup.